deux jours, l'Union européenne doit se prononcer sur le renouvellement de l'autorisation du glyphosate, cet herbicide vendu partout sur la planète et classé cancérogène probable par le CIRC, le Centre international de recherche sur le cancer. En octobre 2016, à La Haye, des victimes et des experts sont venus témoigner lors d'un procès symbolique devant le tribunal international Monsanto. Et c'est la journaliste réalisatrice Marie-Monique Robin, la marraine de ce mouvement, qui justement a rendu public son avis juridique d'autorité en avril dernier. Marie-Monique Robin est aujourd'hui l'invitée de l'émission avec François Veillerette, le directeur et porte-parole de Génération Future. Vous pouvez leur poser toutes vos questions dès maintenant sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Axel Villard, bonjour.
Bonjour.
Et c'est l'hécatombe chez les insectes en Europe aujourd'hui à la une de la science.
Et oui Mathieu, puisque en 30 ans, 75% des insectes volants ont disparu en Europe selon une étude allemande. Un déclin catastrophique que nous commentons avec Bernard Vessière de l'INRA. Et bien sûr, on va parler pesticides et herbicides.
Et Fanny Boyon réalise cette tête au carré qui a été préparée aujourd'hui par Lucie Sarfati.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Le glyphosate, ce pesticide aujourd'hui, donc au cœur de notre dossier avec mes invités que je salue, la journaliste Marie-Monique Robin et François Veillerette de Génération Future. Bonjour à tous
les deux. Bonjour.
Marie-Monique Robin, dans deux jours, donc l'Europe va se prononcer sur la réautorisation du glyphosate pour une durée de 10 ans. Qu'est-ce qu'on peut attendre là de ce vote a priori?
Il faudrait une boule de cristal.
Ouais, vous avez des tendances déjà
les tendances, probables ou pas à mon avis, ils ne vont pas réussir à trouver une majorité qualifiée. Vous savez, il faut que donc le vote soit approuvé par 55% des États et 65% des habitants de la communauté européenne. Donc ça va être très difficile à trouver, cette majorité qualifiée. Donc, qu'est-ce qui va se passer, n'est-ce pas? Ouais. C'est un peu difficile de le savoir. Ce qui est sûr, c'est qu'on va très certainement vers une réautorisation sur une durée plus courte que ce que ne voudrait la Commission, qui propose 10 ans, n'est-ce pas? Voilà. Est-ce que ça va être 3, 5 ans? Voilà.
Avec une date butoir pour le 15 décembre. Oui. François Veillerette, est-ce que les agriculteurs sont conscients des risques qu'ils encourent pour eux-mêmes et puis pour les autres également avec l'utilisation du glyphosate?
Écoutez, je ne suis pas sûr. Pour avoir discuté avec un certain nombre d'entre eux, notamment là, en marge des états généraux de l'alimentation, je ne suis pas sûr. On leur présente le produit comme un truc complètement anodin depuis 30 ans. Ils l'utilisent de manière très très importante, c'est plus de 8000 tonnes consommées par an, donc c'est complètement banalisé et c'est assez dramatique de voir qu'effectivement il n'y a pas encore une prise de conscience sur cet herbicide qui a été présenté, il faut quand même le rappeler, par les firmes qui le vendent comme étant moins dangereux que le sel.
C'est ça, absolument, et c'est ce qu'on retrouve également dans ce documentaire et dans votre ouvrage Marie-Monique Robin, le Roundup face à ses juges, c'est le dossier aujourd'hui de la tête au carré et on se retrouve dans un instant avec les messages et les questions des auditeurs.
La science de l'environnement, en partenariat avec Reporter.net, le quotidien de l'écologie.
Voilà, et dans la même tonalité, une étude allemande qui révèle l'ampleur de la catastrophe écologique en cours en Europe. En 30 ans, nous avons perdu déjà plus de 75% des insectes volants, avec des chercheurs néerlandais qui mettent un chiffre choc sur ce que tout le monde connaît depuis des années, sans vraiment d'ailleurs en prendre la mesure. Les insectes disparaissent à cause de l'agriculture. Et Axel, pour en parler, vous recevez un spécialiste des pollinisateurs.
Oui, nous sommes en ligne avec Bernard Vessière de l'INRA. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargé de recherche au Centre Abeilles et Environnement à Avignon. Et dans ce studio, nous sommes également avec Hervé Kempf du magazine Reporter. Hervé, il suffit de faire un petit peu attention pour se rendre compte qu'on côtoie quasiment plus d'insectes en fait.
Oui, en faisant appel à la mémoire, il y a quelques décennies, quand nous partions en vacances en voiture avec les parents, et ça vous est peut-être arrivé aussi, Max, Axel, le pare-brise était vite sali par les insectes qui s'écrasaient sur les pare-brises, et quand on faisait l'arrêt pour reprendre de l'essence, on nettoyait, le papa nettoyait ardemment le pare-brise. Si on prend la voiture aujourd'hui, au bout de 3-4 heures, peut-être qu'il faut toujours faire le plein d'essence, mais le pare-brise, hélas, est propre. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup moins d'insectes et cette observation très pragmatique que chacun d'entre nous peut faire, elle a été attestée par cette étude originale qui a été publiée dans PLOS ONE, une revue scientifique, la semaine dernière, et qui analyse la biomasse des insectes volants. Alors c'est une étude qui a été menée par des dizaines d'entomologistes amateurs à travers des réserves, c'est-à-dire des espaces protégés en Allemagne, et dans ces lieux préservés, ils ont, selon une méthode normalisée de filet, pour faire simple, pour attraper les insectes volants, et ils ont constaté que la biomasse totale de ces insectes avait diminué effectivement de 3/4 sur 27 ans. C'est une chute absolument vertigineuse. On rappelle le rôle des insectes, bien sûr, pour la pollinisation, mais aussi leur rôle dans la chaîne alimentaire, puisque ce sont les principaux, les proies des oiseaux, des chauves-souris, des amphibiens. Un des auteurs de l'étude, Dave Coulson, parle d'une apocalypse écologique.
Alors Bernard Vessier, on parle souvent de la perte et de la disparition des insectes. C'est vraiment la première fois qu'on mesure une perte sèche de biomasse comme ça, de cette manière ?
Oui, je pense que c'est vraiment la première fois, parce que la méthode utilisée, elle est quand même extrêmement puissante et elle a permis de faire quelque chose qui, je pense, tient vraiment bien la route, quoi.
C'est un chiffre qui vous a étonné, vous ?
À moitié, parce que comme l'a dit un de les personnes sur le plateau, c'est quand même quelque chose qu'on perçoit depuis pas mal de temps. Il y a moins d'insectes sur les pare-brises, on voit moins d'insectes autour de nous, c'est vraiment quelque chose qu'on perçoit. Mais personne ne l'avait vraiment quantifié à ce point-là, et de façon effectivement tout à fait surprenante, quoi.
Alors le chiffre de 75% a été obtenu sur le territoire allemand. Est-ce qu'on peut vraiment généraliser, comme on l'a fait depuis le début de la discussion, avec l'Europe, en tout cas avec la France ?
Oui, je pense tout à fait. Il y a peut-être un petit peu moins de biodiversité en Allemagne qu'en France, mais les pratiques agricoles sont exactement les mêmes. Et donc, je vois pas sur quelle base on pourrait différencier. Il y a peut-être un petit peu plus d'insectes en milieu méditerranéen, mais globalement, sur l'ensemble du territoire, oui, je pense que c'est tout à fait, on peut tout à fait étendre ça à toute l'Europe continentale, en fait.
Bernard Vessier, si on prend l'exemple des abeilles, par exemple, on sait combien de populations d'abeilles ont disparu du territoire français? On a une idée à peu près ou pas?
Alors, au niveau du territoire français, non. Mais au niveau de l'Europe, on sait que la liste rouge qui a été établie par l'UICN, on a 14% des espèces qui sont en voie de disparition, qui sont franchement menacées, quoi. Mm-hmm. Ça, c'est un chiffre qui est bien clair. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'il y a 55% des espèces pour lesquelles on n'a même pas suffisamment de données pour savoir, enfin plus de 55% d'ailleurs, 57%, si elles sont en déclin ou pas.
Alors, les chercheurs ici vont un peu plus loin que simplement donner ce chiffre. Ils éliminent toutes les raisons pour lesquelles ces insectes pourraient disparaître, et à la fin, il en reste plus qu'une, c'est l'agriculture et les pesticides.
Oui, c'est exact, et ça, je pense que c'est vraiment un élément important. C'est-à-dire que toutes les études jusqu'à présent, par exemple, l'étude qui était sortie sur la disparition des abeilles en 2006 dans Science, qui montrait clairement un déclin en abondance et en diversité des abeilles sauvages, hein, puisqu'on a presque 2000, un peu plus de 2000 espèces d'abeilles sauvages en Europe, mettait l'accent sur des facteurs particuliers. Là, ils prennent tous les facteurs les uns après les autres, et de façon très méthodique et très claire, montrent que ce ne sont pas eux qui peuvent être en cause pour expliquer un déclin pareil. Et le seul qui reste effectivement, alors en filigrane, c'est pas ce facteur-là qui est utilisé, parce que ils ne l'ont pas quantifié, c'est l'intensification de l'agriculture.
Hervé Kempf.
Quelles sont les conséquences finalement de cette chute vertigineuse ? À quoi ressemblerait un monde sans insectes ?
Un monde sans insectes, il serait profondément transformé. Ça, il n'y a absolument aucun doute là-dessus, parce que les insectes interviennent, bon, c'est clair, sur la pollinisation de 80% des espèces, donc c'est quand même considérable, mais aussi dans le cycle de la biomasse, et puis comme facteur de nourriture pour les oiseaux, pour un certain nombre de... Donc en fait, ils interviennent directement comme facteur de nourriture, mais aussi indirectement comme... pour notre survie, en fait, avec les services écosystémiques.
Mais est-ce qu'on peut déjà dire les conséquences ? Parce que en 30 ans, on a l'impression que, certes, il y a beaucoup moins d'insectes, mais rien n'a changé, enfin, dans l'environnement apparent, en tout cas.
Dans l'environnement apparent, oui. Mais je pense que si on regardait beaucoup plus précisément ce qui se passe au niveau de l'évolution de la matière organique, par exemple, je pense qu'on trouverait qu'elle est quand même très, très altérée. Il y avait une étude qui est parue il y a quelques années aux États-Unis sur les bouses de vache. Bon, ça peut paraître un petit peu ridicule, mais les bouses de vache provenant d'animaux qui avaient été traités avec un insecticide ne se désagrégeaient plus. Il n'y avait plus aucune désagrégation. Donc le résultat, le sol était totalement recouvert de bouses de vache.
Est-ce que, par exemple, aujourd'hui, certains producteurs de semences ont des problèmes liés au manque de pollinisateurs ?
Oui, la réponse est clairement oui. Oui,
comment
oui.
Ils font ?
Et ça, c'est un facteur qui est important à prendre en compte. Eh ben alors, l'utilisation d'abeilles domestiques s'organise avec un site pour mettre en relation les agriculteurs et les apiculteurs. Et même si on sait par ailleurs que la diversité des abeilles sur l'ensemble des 1000 espèces est importante pour maximiser la pollinisation, eh ben on s'en réduit à l'abeille domestique pour essayer d'obtenir quelque chose.
Est-ce qu'on va faire comme les Chinois qui vont utiliser l'être humain en pollinisant avec des petits pinceaux les fleurs des arbres ?
Alors on va pas faire comme les Chinois parce que eux ils ont fait ça dans une zone où en fait il y a une seule variété de pommes, et de poires aussi, qui ont été plantées, et comme ces espèces sont auto-incompatibles, ils sont obligés d'avoir du pollen en plus d'abeilles. Mais on a effectivement des situations où on a recours à la pollinisation manuelle pour certaines espèces.
Marie-Monique Robin, bon sujet d'introduction à la question du glyphosate, hein, évidemment, on est en plein dedans.
Bien sûr. Alors, le glyphosate, c'est un herbicide, mais ce qu'on sait d'abord, c'est qu'il détruit les plantes dont ont besoin les insectes aussi, pour se nourrir. Mais au-delà de ça, c'est une chose qu'on ne dit pas assez à mon sens, c'est un antibiotique. Monsanto a obtenu un brevet en 2010 pour cette fonction totalement méconnue et ignorée des agences de réglementation. Et moi, j'ai lu des études donc, qui disent que justement, ça a aussi un impact sur les abeilles, du coup, parce que c'est un antibiotique qui tue les bonnes bactéries. On a tous des bactéries, mais les abeilles aussi. Hein, donc, nous, c'est dans notre intestin. Et qui, en revanche, encourage la prolifération des agents pathogènes. Mmh. Donc ça peut contribuer à cet effondrement des colonies d'abeilles.
François Vaillerette, pour conclure.
On ne peut pas s'empêcher, quand on entend cette étude, les conclusions de cette étude, d'être atterré par le fait que deux nouveaux pesticides à base de néonicotinoïdes, base de sulfoxaflor, viennent d'être autorisés en France, alors même que la loi biodiversité prévoit qu'on ne les autorise pas. Et on a vu en plus qu'ils ont été autorisés sur la base d'un dossier européen incomplet vis-à-vis des effets sur les abeilles. Donc on n'a pas pris encore clairement la mesure du phénomène.
Axel ?
Bernard Vessière, peut-être une réaction sur ces deux pesticides ?
Non, écoutez, moi je pense que ça, effectivement, il est temps qu'on prenne franchement en compte l'impact de ces insecticides sur l'abeille domestique, mais aussi sur les abeilles sauvages, parce qu'il est un peu trop facile d'utiliser uniquement l'abeille domestique avec un grand rayon d'action, alors que les abeilles sauvages, elles sont beaucoup plus en danger.
Merci beaucoup Bernard Vessière pour ces informations. Je rappelle que vous travaillez à l'INRA et puis on retrouvera bien sûr cette étude, Hervé.
On en reparle dès demain.
Dans Reporter, sur reporter.net. Merci beaucoup et Axel, à demain.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, l'agence spatiale japonaise, la JAXA, qui annonce la découverte d'un tunnel volcanique de près de 50 km de long sous la surface de la Lune. Bien que l'existence de ces galeries naturelles creusées par l'ancienne coulée de lave n'est pas nouvelle, cette galerie, en particulier grande et intacte, pourrait permettre d'accueillir des explorateurs selon les chercheurs. Aujourd'hui, les agences spatiales envisagent de plus en plus d'installer les premiers colons extraterrestres sous la Terre dans des grottes, des cavités naturelles qui offrent une protection efficace contre les variations de température ainsi que les rayonnements solaires et cosmiques. La lutte contre le dopage a un nouvel ennemi, c'est la thérapie génique qui vient lui faire son apparition dans la liste des pratiques interdites par l'Agence mondiale de lutte contre le dopage. Les progrès récents des technologies d'édition du génome et des démonstrations cliniques ont amené les experts de l'agence à redéfinir le dopage génétique. L'agence cherche secrètement depuis quelques années des méthodes de détection de ce type de traitement et annonce en posséder déjà plusieurs l'année dernière à Rio. Plusieurs sportifs ont vu leur ADN testé par le comité olympique à la recherche d'un gène stimulant la production naturelle de PO. Et puis pour terminer, on vous propose de découvrir le chef-d'œuvre pariétal de la grotte de Lascaux depuis votre ordinateur ou votre téléphone. Le nouveau site virtuel de la grotte a été mis en ligne vendredi et vous permet de voyager de cavité en cavité à travers de nombreux films et panneaux explicatifs. Depuis la ronde des taureaux jusqu'à la Seine du Puy, vous retournerez 19 000 ans en arrière et comprendrez les techniques qui ont permis à ces hommes de laisser leurs traces. Le site de Lascaux actualisé est en ligne sur la page Facebook de La Tête au Carré. Et la suite dans un instant avec le glyphosate.
Aujourd'hui, France Inter fête les 60 ans de Stax Records.
Voilà, cette grande maison de disques américaine, eh bien, c'est une journée spéciale aujourd'hui sur France Inter. Et pour commencer, Otis Redding et Respect. We'll be right back. Respect. Otis Redding à l'occasion de cette grande journée consacrée donc à cette maison de disques Stax.
La tête au carré sur France Inter.
Pour détruire les vivaces, Roundup, c'est l'idéal. Ça agit très vite et une semaine après, je peux préparer ma terre et semer. Et en plus, Roundup, ça ne laisse pas de résidus dans le sol.
Roundup de Monsanto. Ensemble, défendons votre terre.
Voilà, il est bon de se rappeler les publicités de oui. Monsanto. Hein, c'était dans les années 90 et presque 10 ans après, justement, Le Monde selon Monsanto. Monsanto, Marie-Monique Robin, vous revenez donc avec une nouvelle enquête hein, sur les dangers du glyphosate, ce pesticide qui est le plus utilisé dans le monde, qui fera l'objet donc d'un vote après-demain à Bruxelles pour son renouvellement. Classé cancérogène probable, quand même, il faut le rappeler, par l'OMS. C'est le dossier de l'émission cet après-midi avec les messages des auditeurs qui arrivent déjà nombreux sur le site de l'émission. Le Roundup face à ses juges, un livre qui sort également et que vous signez Marie-Monique Robin après le documentaire qui a été diffusé sur Arte et qu'on peut d'ailleurs revoir en replay
pendant deux mois.
Pendant deux mois, donc voilà. Il faut aller sur le site d'Arte si vous le souhaitez. Et puis François Veillerette, vous êtes également avec nous. Vous êtes le directeur et porte-parole de l'association Génération Future. Ben tiens, j'aimerais commencer par ce premier message de Pierre qui est un auditeur régulier de France Inter, qui est agriculteur dans le nord du Gers. Il ne voit, dit-il, dans cette agitation qu'une mise en avant de certains qui veulent simplement afficher leur victoire contre le glyphosate. Je constate l'absence de discussions contradictoires, honnêtes, explorant le pour et le contre des usages de cette molécule en agriculture. Il précise qu'il n'est pas acheté par Monsanto et qu'il aurait plaisir à vous recevoir sur sa ferme pour discuter de tout cela plus sereinement. D'abord, la difficulté d'avoir des contradicteurs, hein, Marie-Monique Robin. C'est quand même ça la réalité aussi. Hein. C'est qu'on peut appeler Monsanto ou les représentants de Monsanto, ils ne veulent pas venir. Hein.
Non, ils ne veulent pas venir. Ils ne sont même pas venus d'ailleurs au Parlement européen récemment. Hein. C'est incroyable quand même, parce que c'était une demande du Parlement européen et le PDG de Monsanto a décliné la proposition. Oui, alors en ce moment, ceux qui voudraient vraiment défendre le glyphosate du côté des fabricants, il n'y a personne. Alors en revanche, j'entends ce que me dit cet agriculteur. Alors seulement, je dis et je redis, d'abord que souvent on ment aux agriculteurs. Il y a encore beaucoup d'agriculteurs qui pensent que ce produit est biodégradable. C'est absolument faux. Monsanto a été condamné deux fois, je le répète, par la justice américaine et française. C'est un mensonge. Non seulement ça, mais vous découvrirez dans mon livre que ça se bioaccumule, et ça dans les sols y compris. Un scientifique américain très réputé aux États-Unis dit que la demi-vie, contrairement à ce qu'a affirmé Monsanto, la demi-vie c'est donc le temps qu'il faut pour détruire la moitié du produit qui est dans le sol, c'est 21 ans, donc vous voyez, on est très loin de la biodégradabilité. D'au plus, je trouve qu'il y a quand même quelque chose d'assez étonnant dans le comportement des pouvoirs publics. D'un côté, vous savez, depuis janvier 2017, on ne peut plus passer de Roundup dans les villes, vous savez, toutes les communautés territoriales, etc., les cours de récréation, on ne peut plus. À partir de janvier 2019, les particuliers n'auront plus le droit non plus de l'utiliser. Et pourquoi est-ce que les agriculteurs, eux, devraient continuer à pouvoir l'utiliser avec le masque, les gants, la combinaison, habillés en cosmonautes? Mais il y a un vrai problème avec, avec cette molécule. Alors, je comprends l'inquiétude de ceux qui l'utilisent. Parce que si on l'interdit, ce que j'aimerais, moi, qu'on fasse, hein, eh bien, je dis aussi qu'il faut en même temps, comme le dit notre président, mener un vrai programme de transition agricole qui permette de généraliser la transition vers une agriculture durable. Et on sait ce qu'il faut faire. On sait ce qu'il faut faire. Il y a plein d'agriculteurs qui se passent du glyphosate. Mais il faut accompagner, donc ça veut dire des mesures.
Alors, vous étiez à l'Élysée justement vendredi, François Veillerette, ça tombe bien. Vous avez rencontré les conseillers d'Emmanuel Macron sur cette question. Et puis en plus, on a quand même une promesse de campagne, là, faite par le président Macron, hein, sur justement l'arrêt des pesticides qui pouvant nuire à la santé des personnes.
Oui, c'est ce qu'on a rappelé.
Qu'est-ce qui est ressorti de ce rendez-vous, de cette lettre que vous avez apportée à l'Élysée?
Alors, eux non plus n'ont pas apparemment de boule de cristal, donc je ne vais pas vous dire exactement ce qui va se passer dans les jours qui viennent, puisque, pour être clair, il y a des tractations, des discussions intenses entre les divers États membres, entre des pays comme l'Angleterre ou la Pologne, qui seraient favorables à 15 ans d'autorisation, c'est-à-dire au maximum possible, et puis des pays comme la France, c'est vrai qu'ils veulent plutôt aller vers une sortie du glyphosate. Il y a beaucoup d'écart. Même l'Autriche a encore une position plus radicale que la France. Le Parlement autrichien a voté pour une sortie immédiate. La difficulté, c'est de recueillir, de rassembler une majorité qualifiée autour d'une proposition. Donc aujourd'hui, les 10 années qui sont proposées par la Commission européenne ne vont sans doute pas permettre de recueillir cette majorité de 65% du poids des États. Donc, Donc, à mon avis, dans deux jours, il n'y aura pas de vote, probablement, parce qu'il n'y aura pas de majorité là-dessus. Mais maintenant, ce qu'il faut, c'est de dégager une autre proposition, et je pense que c'est aussi la responsabilité de la France, je crois que le gouvernement français en est conscient, qui soit acceptable par une majorité de pays. Et là, est-ce que ce sera 4 ans, 5 ans, 3 ans, 7 ans ?
Pourquoi Nicolas Hulot parle de 3 ans ? Alors, pourquoi ce délai pour lui de 3 ans et pas interdire tout de suite le glyphosate ?
Alors, ce délai de 3 ans, il est intéressant parce qu'il correspond à un montage qui juridiquement tient debout. Je m'explique. C'est d'ailleurs, ça fait l'objet d'une proposition du Parlement européen sous forme d'une objection qui va être votée ou non, d'ailleurs, en plénière demain à Strasbourg. Ce que le Parlement dit à juste titre, sous une proposition des eurodéputés socialistes verts, etc., qu'on peut prendre la décision aujourd'hui d'interdire le glyphosate, mais qu'en cumulant tous les délais légaux prévus par le règlement, un an pour appliquer l'interdiction, plus les délais de grâce prévus, on arrive à 2 ans et demi, 3 ans.
C'est ça.
Et donc, ce qui permet à la fois de s'assurer qu'il y a une décision de retrait du glyphosate, et puis laisser une petite période d'acclimatation, disons, pour les producteurs. Parce que si on dit 4 ans, c'est 4 ans, mais c'est 4 ans sans garantie qu'on n'aura pas une réautorisation derrière.
C'est
donc le maximum de la période qu'on puisse aujourd'hui accorder aux agriculteurs pour remodifier leurs pratiques tout en prenant la décision de sortie du glyphosate, c'est 3 ans.
Et trouver des méthodes alternatives,
oui,
évidemment.
Oui, elles existent déjà, mais il faut les généraliser.
Marie-Monique Robin.
Oui, enfin, moi je pense qu'il faudrait interdire tout de suite cette molécule, parce que d'abord je pense que c'est un vrai problème de santé publique, ça ne concerne pas que les agriculteurs. Je suis très sensible, encore une fois, à la santé des agriculteurs déjà. Je l'ai dit beaucoup, je suis fille d'agriculteur, il y a beaucoup de malades dans mon entourage, donc voilà, donc je suis sensible à ça. Mais c'est aussi un problème qui concerne tout le monde. Je vous rappelle que, n'est-ce pas, François, Génération Future m'a fait faire pipi dans une bouteille. Hein.
Je confirme.
Tu confirmes, n'est-ce pas ? C'était au printemps dernier, il y avait Émilie Loiseau, il y avait Delphine Bateau. Ouais.
100% des joueurs ont gagné.
100% des joueurs ont gagné, 100% des cobayes avaient du glyphosate dans leurs urines, voilà. Qui confirmait les résultats d'une cohorte beaucoup plus grande qui a été réalisée en Allemagne, 2000 citoyens allemands, et tout le monde a du glyphosate dans ses urines. Il y a des taux qui sont quand même très inquiétants, c'est 12 fois, au minimum 12 fois supérieur à ce qui est autorisé dans l'eau. Donc, il n'y a pas que... Je veux dire, il faut sortir aussi de la question agricole, je suis désolée de dire ça. Il faut aller sur le terrain de la santé publique, qui comprend évidemment aussi la santé des agriculteurs et des communautés rurales, mais c'est beaucoup plus large que ça.
Mais c'est la santé du vivant d'ailleurs dans son ensemble, c'est ça qui est absolument aberrant avec ce pesticide, c'est que ce sont les sols évidemment, les plantes, les animaux, on le voit très bien dans votre vie, et puis les humains, bien sûr. On va d'ailleurs écouter le témoignage de cette mère qui était présente justement au tribunal international Monsanto. Elle est dans votre film Le Roundup face à ses juges, et elle explique ce qui est arrivé à son petit garçon.
Ces photos sont celles d'un petit garçon qui s'appelle Théo, qui est mon fils. Il est né avec de multiples malformations, en particulier une atrésie de l'œsophage, qui ont au total nécessité 50 opérations. Nous avons une carrière d'équitation, c'est notre métier. Donc nous avons un grand espace de 700 mètres carrés pour monter à cheval, qui est en sable, et sur lequel chaque été, je passais un désherbant à base de glyphosate. C'est le désherbant à base de glyphosate que j'ai utilisé pendant l'été 2006. C'est moi qui pulvérisais ce produit, donc dans un pulvérisateur à pompe. La coïncidence est troublante de se dire que j'ai passé ce produit-là, qui est quand même en grosse quantité, sur cette surface qui est considérable, pendant 2 jours. Et 9 mois plus tard, un enfant naît avec des malformations qui portent sur des organes dont la jeunesse se fait précisément à cette période-là.
Voilà, Marie-Monique Robin. Alors, l'explication est simple comme ça, mais on se dit, bon, vraiment, le lien de cause à effet, est-ce que la science a des choses à nous dire là-dessus quand même ? Parce que là, c'est une maman qui fait un lien direct, mais qu'en est-il ?
Bien sûr, mais moi, évidemment, avant de décider de filmer Sabine Grataloup, je lui rends hommage parce qu'aujourd'hui, Théo est dans un hôpital à Paris pour sa 53e opération. Et Sabine Grataloup et sa famille portent plainte contre les fabricants de glyphosate. Évidemment, moi j'ai passé 2 mois en fait sur l'histoire de Sabine, parce qu'évidemment, quelqu'un vous dit ça, est-ce que c'est plausible ? Voilà. J'ai dit bien, est-ce que c'est plausible scientifiquement ? Donc ça, on fait quoi ? Eh bien, on regarde d'abord les études qui ont été publiées dans les revues scientifiques, et on voit qu'effectivement, un certain nombre d'études montrent un lien très clair entre les malformations congénitales et l'exposition au glyphosate en tout début de grossesse. Ça tient à l'organogénèse, c'est-à-dire que c'est vraiment en tout début de grossesse.
Le moment où les organes se forment, justement.
Voilà, tout à fait. Et Sabine, peut-être que si elle avait passé ce produit en étant enceinte de 7 mois, son fils n'aurait rien eu, Théo. Mais ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai eu accès au dossier d'homologation, c'est-à-dire le dossier que Monsanto a remis à l'Agence de protection de l'environnement, l'EPA, pour pouvoir avoir ce fameux sésame, vous savez, pour vendre légalement le produit. Eh bien, moi, j'ai trouvé une étude de 1980 de Monsanto qui montre que c'est tératogène. Tératogène, ça veut dire que ça cause des malformations congénitales. Sauf qu'ils ont caché cette étude. Donc, tout converge vers, effectivement, l'explication et la conviction de Sabine que les malformations de Théo sont dues à cette exposition.
Et on le voit très bien chez les animaux aussi. Hein, parce que toutes les études qui ont été menées sur les déformations justement des fœtus
beaucoup d'études, notamment sur les batraciens, qui sont un très bon indicateur pour ce genre de malformations. La grenouille est parfaite quand il se passe quelque chose avec la grenouille. C'est vrai pour tous les perturbateurs endocriniens en général, parce que c'est de ça qu'on parle en fait là, de la fonction de perturbateur endocrinien du glyphosate. Eh bien, on peut dire que si les grenouilles, il y a des problèmes, il y aura des problèmes chez nous. Donc, beaucoup d'études sur les grenouilles, dont une qui a été réalisée par un professeur qui s'appelle Carrasco en Argentine, mais il y en a d'autres. Hein. Je cite celle-ci parce qu'à l'époque, elle avait fait beaucoup de bruit. Et c'était une étude de 2010 qu'il a fait à la fois sur des grenouilles et sur des embryons de poulets.
Et les Argentins sont très dynamiques sur le front du glyphosate, comme on peut le voir aussi dans votre documentaire, avec des initiatives menées de la part d'universitaires et de scientifiques qui sont assez intéressantes auprès des populations. Ce message d'Alain François Veilleret, on entend depuis quelques semaines donc cette critique vigoureuse et répétée du glyphosate et donc de sa marque Roundup, mais Monsanto et le Roundup sont en train de disparaître et sont remplacés par d'autres produits qui auront les mêmes effets ou pires. C'est le risque au fond, non? Parce qu'on se bat sur un front, mais...
Bien sûr, c'est le risque. Alors c'est vrai que c'est la difficulté aussi de notre travail, c'est que il a fallu un travail énorme de multitude d'acteurs pour arriver à élaborer une critique argumentée sur le dossier du glyphosate. Et ça a lieu en Europe, mais ça a lieu aussi aux États-Unis, en Amérique du Sud. Mais ce qu'on voit là, c'est qu'on devrait faire le même travail si on en avait les moyens sur chacune des molécules mises sur le marché. Parce qu'au-delà du cas du glyphosate, on s'aperçoit qu'il y a un vrai problème avec tout le travail des agences sanitaire. On l'a vu aux États-Unis, mais également en Europe, où un travail de collègues autrichiens et allemands, notamment, a montré qu'il y avait un vrai souci avec les dossiers d'homologation, puisque par
exemple...
Avec
l'indépendance,
l'indépendance de ces agences. Déjà, la non-prise en compte des études universitaires dans les dossiers d'homologation de manière systématique, par des processus variés. Et puis après, il y a eu cette fameuse affaire des copier-coller, où en fait, on a eu une centaine de pages des dossiers fournis par l'industrie, qui étaient copier-coller tel quel dans le rapport d'évaluation de l'agence allemande, selon moins de commentaires. Et c'est justement le passage qui concerne l'évaluation des études universitaires. Donc c'était un moyen fait pour disqualifier les études universitaires a priori, parce que quand on croyait lire l'avis de l'agence allemande, en fait on lisait sans le savoir l'avis de Monsanto, ce qui est proprement scandaleux.
Allez, on va y revenir dans un instant, effectivement, pour comprendre aussi les méthodes employées par ces grands groupes et les messages des auditeurs qui nous rejoignent sur franceinter.fr. On parle glyphosate cet après-midi.
The minute I was thinking to hold you back, the moment I was wishing it's overnight. The minute I was thinking to hold you back. The moment I was wishing it's overnight. The minute I was thinking to hold you back. The moment I was wishing it's overnight. It's overnight. The minute I was thinking to hold you back. The moment I was wishing. The minute I was thinking to hold you back. The moment I was wishing. It's overnight.
Overnight avec Parcells à l'instant.
La tête au carré sur France Inter.
Marie-Monique Robin et François Veillerette, mes invités cet après-midi dans la tête au carré pour parler donc du glyphosate, cette molécule connue plus précisément sous la marque Roundup. Maintenant, tout le monde l'utilise parce qu'elle est passée dans le domaine public depuis que Monsanto n'a plus donc son brevet. Marie-Monique Robin, vous êtes donc repartie sur les traces de Monsanto alors que vous ne vouliez plus justement vous attaquer à ce nouveau sujet. Et puis vous êtes tombée face à deux Suisses très têtus visiblement qui vous ont convaincu d'y aller et de créer ce tribunal international Monsanto à l'aise. C'était quand même très gonflé, hein, cette idée.
Ah ouais.
Ils ont réussi, ils ont abouti.
Ah oui, vraiment, c'était même incroyable. Quand ils sont venus à l'automne 2014, je les ai reçus un petit peu comme ça, parce que ils sont venus exprès, donc je les ai bien reçus quand même. Puis ils m'ont dit, on a vu le monde sur Monsanto, on voudrait créer un tribunal contre Monsanto. Et je me suis dit, ces deux-là sont complètement fous. Je leur rends hommage, hein, René et Esther, parce que franchement...
Ouais.
Alors, ils m'ont demandé d'être la marraine, j'ai réfléchi, je dis ok. C'est une aventure collective. Alors, j'ai posé deux conditions. Et ça, c'était très important pour moi, que ce soit un vrai tribunal. Alors vrai, je veux dire par là, que ce soit de vrais juges qui siègent. Mmh.
Et
c'est ça qui fait
que... Et de vraies victimes aussi, pour le coup,
qui viennent témoigner. De vrais experts, donc il fallait vraiment bien faire, comme un vrai tribunal. Et la deuxième condition, c'était que cela serve à faire évoluer le droit international pour qu'on puisse un jour, j'espère bientôt, reconnaître un nouveau crime qui serait celui d'écocide.
L'écocide, oui, c'est ça.
Crime contre les écosystèmes, dont on a besoin... pour stopper toute la destruction de la planète qui était à l'œuvre et qui permettrait, s'il était reconnu, de poursuivre au pénal les dirigeants des entreprises comme Monsanto qui sont coupables de ce crime.
Ouais. Chapeau quand même François Veillerette, hein, de monter un tel tribunal à La Haye, donc dans un endroit quand même très symbolique, avec ses experts.
J'ai été tout à fait impressionné, j'ai participé modestement à quelques réunions, en jouant les petites mains, mais c'est vrai qu'il y a eu un travail collectif remarquable. Et puis on se demande comment ça va réussir à un moment donné, et finalement ça marche, et ça c'est miraculeux.
Et c'est très important ces témoignages, évidemment, avec ces personnes venues du monde entier.
Je crois que c'est surtout ça qui donne la puissance, c'est qu'on s'aperçoit que là, on a un mouvement international contre ces pratiques et ces produits dangereux, avec des témoignages concordants. Et donc, ça donne une énergie extraordinaire à l'ensemble des participants pour continuer à se battre.
Ouais. Et on voit aussi combien c'est difficile de s'attaquer à un monstre comme Monsanto. Ça, c'est absolument incroyable. Hein. C'est très émouvant. Mmh. Et ce qui est génial aujourd'hui, c'est que... C'est pour ça que c'est important que ce soit des vrais juges, parce qu'ils ont rendu dans ce qu'on appelle une opinion juridique d'autorité. Mmh. Donc, elle est très fondée. Elle est fondée juridiquement. Et elle peut servir, c'est un corpus, vous voyez, d'arguments juridiques, n'est-ce pas, qui servent, non seulement peuvent servir, mais servent aujourd'hui déjà. En Argentine, ils sont en train de s'organiser à partir. Ouais. Ça leur a donné la force, si j'ose dire... Eh ben, de se dire, on fait des vrais procès maintenant.
Ah, puis il y a un exemple intéressant, c'est le Sri Lanka quand même.
Oui, personne n'en parlait.
Qui est très porteur d'espoir, parce que pour le coup, c'est le pays qui a interdit le glyphosate.
Oui, maintenant, il y a le Salvador qui est le deuxième. Ouais. Le Salvador s'est confirmé, le deuxième pays.
Et les pays du Golfe.
Voilà, pays du Golfe. Ouais. Et donc, le tout premier, c'était le Sri Lanka.
Et on voit les pressions subies par le Sri Lanka de la part de Monsanto, justement, pour tout faire.
Ah oui,
bien sûr.
Ah oui, ils font même des pressions, on se demande, j'espère qu'ils vont tenir, parce qu'il y a des pressions énormes pour notamment alléger l'interdiction pour pouvoir l'utiliser sur le thé, parce qu'il faut savoir que le Sri Lanka, c'est Ceylan.
Bien sûr.
Et on découvre que finalement, le thé de Ceylan, jusqu'à une date récente, il était
bourré de pesticides.
Voilà, et notamment de glyphosate.
Ouais. C'est toujours ce cas de figure, parce que même en Europe, quand il y a une autre autorisation de mise sur le marché qui va être retirée. Il y a des pressions énormes des firmes, mais on peut dire que la Commission européenne elle est toujours un peu tétanisée par la perspective d'un procès qui vienne complètement paralyser ses services.
Mais des agences comme l'EFSA, justement l'Agence européenne de sécurité des aliments, dont vous parliez tout à l'heure à François Veillerette, dont on se demande où se trouve l'indépendant justement et l'objectivité, subit aussi des pressions ou possède même en interne des membres de Monsanto ?
Non, mais je crois que les choses sont beaucoup plus subtiles que ça. Il y a déjà le fait d'utiliser les données fournies par les firmes sans trop les critiquer, qui sont, c'est déjà une manière d'accepter la prédominance de l'industrie sur l'intérêt général. Le fait d'adopter un système de classement, de hiérarchisation de la valeur des études, qui est un système inventé par les industriels eux-mêmes, ça s'appelle l'échelle de Klimisch, c'était des toxicologues de BASF, qui finalement notent le mieux possible les études qui suivent les dites bonnes pratiques de laboratoire, qui ne sont jamais suivies ou quasiment jamais suivies par les universitaires. En gros, c'est des données d'enregistrement considérablement lourdes, qui n'amènent pas de qualité scientifique, mais qui, en fait, distinguent les études de l'industrie des études universitaires. Elles sont réputées meilleures que les autres, à tort, pensais-je, et donc ça élimine de fait toutes les études universitaires. C'est comme ça que ça se passe, en fait. C'est comme ça qu'on arrive à déclasser l'ensemble de la science universitaire. Et après, il y a aussi un problème, ça a été montré par nos collègues autrichiens de Global 2000, dans la façon dont les résultats fournis, même ceux des études de l'industrie, sont analysés. En fait, il y a toute une série de biais, soit les méthodes statistiques qui sont défavorables, soit des groupes de référence pour comparer les groupes exposés aux groupes non exposés, qui sont employés, des choix qui sont faits, qui vont finalement conduire à ne pas trouver d'effet dans les études qui sont analysées. Et ça, vous voyez, c'est plus subtil que d'avoir un représentant de l'industrie avec une mallette de billets, c'est pas comme ça que ça se passe, mais c'est au bout, ça aboutit au même résultat, c'est-à-dire qu'on va pas prendre en compte les données scientifiques qui sont pourtant là, elles sont disponibles.
Ouais, alors justement, parmi ceux qui se sont succédés à la barre de ce tribunal international Monsanto, on va écouter un éleveur danois qui a fait un véritable travail scientifique d'ailleurs, très intéressant et très convaincant.
Je suis heureux d'être ici pour présenter mes observations sur mes cochons. Mon père a été éleveur entre 1959 et 1993. Il n'a jamais vu le type de malformation que vous avez dans votre dossier. Il n'a jamais utilisé d'OGM car ça n'existait pas. J'ai changé la nourriture en passant au non-OGM. Et deux jours plus tard, mon chef d'élevage m'a dit que l'impact sur la santé était déjà visible. Nous avions d'énormes problèmes de diarrhée dans l'élevage qui ont immédiatement disparu. Comme ça. Les truies ont retrouvé l'appétit, elles mangeaient mieux, avaient plus de lait et pouvaient allaiter plus de petits. Les ulcères et les hémorragies se sont aussi arrêtés. C'est crucial. Parce que mes cochons avaient un niveau de glyphosate dans leurs aliments qui étaient au-dessous de ce qu'ont les citoyens européens dans leur assiette. C'est ridicule de ne pas interdire le Roundup. C'est un génocide.
Voilà, Marie-Monique Robin. Donc ce travail est fait par cet éleveur danois qui a pris en photo ses filmé cochons depuis
pendant deux ans, pour avoir des preuves de toutes ces malformations congénitales qu'il a vues apparaître petit à petit, avec l'arrivée des OGM, parce qu'il faut bien savoir que, et c'est la même chose en France, tous les élevages industriels, aussi bien de cochons, de vaches ou de poulets, sont nourris avec du soja transgénique manipulé génétiquement pour pouvoir être arrosé de Roundup ou de glyphosate qu'on importe d'Argentine ou d'Amérique du Nord. 37 millions de tonnes de soja importées des Amériques pour les élevages industriels européens. Donc, ça veut dire que quand on mange de la viande qui n'est pas bio, on mange des résidus de glyphosate, il faut être très très clair là-dessus, et c'est l'une des sources de contamination de la population. Mais ce qui est extraordinaire chez Ibs, c'est qu'il a fait tout ce travail tout seul.
C'est ça.
Parce que il est devenu un lanceur d'alerte, en fait, parce qu'en fait, lui, c'est un éleveur industriel, hein. Moi, j'ai vu des... Parce que depuis, il a arrêté, hein. Mais j'ai vu des images de sa porcherie, hein. Pour moi, c'est horrible, quoi. Enfin, c'est des cochons entassés, vous voyez, bon. Mais...
Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a à ses côtés, je crois que c'est une épidémiologiste allemande, a observé son travail, et qui a vu justement dans les tissus des animaux les traces de glyphosate. C'est-à-dire qu'il y a une traçabilité très nette.
Oui, tout à fait. Donc lui, il était tout seul dans son coin, il a fait tout ce travail. Il entend parler de Monika Krüger, qui travaille à l'université de Leipzig, qui, elle, de son côté, a été saisie par des éleveurs allemands, parce que dans les élevages de bovins, il y avait une épidémie de botulisme, qui est une maladie très, très grave, qui font que les vaches meurent, avec une neurotoxine, etc. Elle ne comprenait pas, et elle a constaté que c'était lié aussi au glyphosate. Et donc, du coup, le Danois la contacte, arrive avec une trentaine de porcelets congelés, déformés, et elle constate que dans tous les tissus, tous les organes, il y avait du glyphosate.
Donc ça se voit.
Ah oui, bien sûr, ça se voit. Bien sûr. Et d'ailleurs, j'aimerais bien, moi, que les éleveurs bretons qui nous écoutent me contactent pour me dire est-ce que vous avez constaté dans vos élevages aussi une augmentation du taux de malformation congénitale, parce que souvent quand on a un grand élevage, on se dit finalement ça fait partie du travail. Voilà. C'est très important qu'on le sache, parce que je pense que ce que j'ai pu voir aux États-Unis ou au Danemark ou en Allemagne, avec ces témoignages qu'il y a dans le film, des vétérinaires, des éleveurs qui témoignent, je pense que c'est la même chose chez nous en France.
Et puis on l'entendait dans l'extrait aussi, que l'arrêt de l'utilisation de ce produit stoppe quasiment du jour au lendemain les symptômes de maladie, par exemple, auprès de ces animaux, François.
Oui, tout à fait, parce que ça a été évoqué par Marie-Monique à l'instant. On a aussi des problèmes de botulisme chez les ruminants, où finalement le glyphosate, parce qu'il a une propriété antibiotique, il a été breveté pour ça, va finalement tuer les bonnes bactéries et vont laisser le champ libre donc aux bactéries du botulisme. Et là, vraiment, c'est directement lié à l'absorption d'aliments contenant des résidus de glyphosate. Et si on arrête du jour au lendemain, effectivement, la flore intestinale retrouve son équilibre.
C'est très spectaculaire, c'est ce que disent tous les éleveurs, y compris un éleveur américain que j'ai dans le film. Mais vous voyez l'inquiétude qu'il y a aussi pour nous. Parce que vous savez, un très bon exemple, c'est le cochon quand même. On est très proche des porcs. Nous avons aussi un microbiote, une flore intestinale. Avec ces résidus de glyphosate que nous avons tous dans le corps, on peut très bien imaginer. D'ailleurs, c'est ce qui est dit dans mon livre, des scientifiques qui commencent à s'interroger aux États-Unis sur le lien entre cette omniprésence du glyphosate dans les organismes vivants et un certain nombre de maladies liées à l'intestin, notamment. Vous savez, la maladie de Crohn, l'intestin poreux, y compris l'autisme, puisqu'il y a souvent un problème. Enfin, quand on a un enfant autiste, souvent on a constaté des problèmes aussi avec les intestins. Bon, je résume, mais c'est vraiment une vraie interrogation et une inquiétude en ce qui me concerne. Et j'alerte vraiment le gouvernement parce qu'encore une fois, il y a un problème de santé publique avec cette molécule.
Allez, on se retrouve dans un instant, dernière partie de notre discussion qu'on consacrera également au courriel des auditeurs nombreux sur le site de La Tête au Carré.
Elle était partie à la vitesse d'un avion de chasse, d'une bombe atomique qui foudroie, qui terrasse. Elle parcourait le monde, passe et repasse, du mépris dans la voix, cocaïne comme seule trace. Elle n'effleurait plus la peur du vide et de la solitude. Elle se noyait dans l'opium au triangle des Bermudes, aussi éphémère que le turquoise au fond des piscines. Elle prenait goût à mélanger champagne aspirine, comme les cendres rosées d'une clope dans la nuit, comme l'odeur vanillée d'une robe fleurie. Belle, belle, évanescente, celle d'une envie méchante. Sur un sofa de velours et les néons, tamisé de lumière noire, vertigo, couleur citron, éclaire ses courbes accomplies, photoshopées sur logiciel. Pas de défaut, d'anomalie, sans un nuage, rien que le ciel. Le doigt sur la détente et s'enclenche la focale, figée la pente ascendante de son corps à l'horizontale, ébloui par les projecteurs et les mensonges de l'ivresse, aveuglé par la peur et puis les songes qu'on lui laisse. Comme les cendres rosées d'une clope dans la nuit, comme l'odeur vanillée d'une robe fleurie. Belle, belle, évanescente, celle d'une envie méchante. Impassible glaçon dans le désert, la beauté infaillible, céleste et singulière. Lui, on suffit à s'approcher bien trop de la lumière pour y brûler enfin vive les braises, puis la poussière. Et ses tailles à des veines en regardant le sang couler dans les reflets de la Seine et ses artifices de buée pour y plonger tout entière, pour à jamais se noyer en oubliant les chimères qui l'ont perdu, qui l'ont tué. Stopper l'hémorragie et les milliers de questions qui entrent dans sa tête, une cage de béton, des recoins d'étranges. La folie lancinante pour peut-être enfin céder à cette putain d'envie méchante.
une envie méchante. Teamed up.
La tête au carré.
Comme les nuages. Comme l'air. Comme la pluie. Comme le soleil. Roundup de Monsanto est un élément primordial pour l'agriculture. Roundup de Monsanto, très proche de la nature.
Voilà, proche de la nature.
J'ai touché combien pour passer ça?
Voilà, en 1990, on parle de Monsanto, dit Ludovic, mais le pire n'est-il pas Bayer qui veut racheter Monsanto et pourrait devenir plus puissant que de nombreux pays? Est-ce qu'il ne faudrait pas essayer de lutter et de tuer la poule dans l'œuf avant que n'éclose justement ce problème? Ça, c'est un vrai problème, le rachat justement de Monsanto par Bayer, Marie-Monique Robin. Qu'est-ce qui peut se passer alors concrètement si c'est le cas?
L'une des inquiétudes que nous avons, et que par exemple je partage avec Corinne Lepage, ou l'ancienne ministre de l'Agriculture de l'Allemagne, Renate Künast, on a écrit toutes les trois une lettre à la commissaire européenne qui est en train d'examiner cette fusion, parce que pour l'instant, elle n'est pas encore confirmée. Alors, la commission, elle examine, est-ce qu'il y aura un monopole, est-ce que ça ne va pas violer les lois sur la concurrence? Évidemment que c'est un monopole. Alors, peut-être qu'ils vont dire, il faut laisser tomber telle filiale, etc. Mais pour nous, la question la plus importante, c'est qu'est-ce qui va se passer une fois que Monsanto sera absorbé par Bayer, c'est ça qu'il s'agit, de toute la responsabilité pénale de Monsanto. Je rappelle qu'actuellement, par exemple, 3500 agriculteurs américains qui ont porté plainte contre Monsanto parce qu'ils ont un lymphome non-Hodgkinien, qui est une forme de leucémie, et qu'ils ont utilisé du Roundup, du glyphosate. Qu'est-ce qui va se passer, par exemple, avec cette procédure? Toutes les procédures en cours, il y en a beaucoup.
Pour être annulées purement et simplement? Par l'absorption de Monsanto par Bayer.
Il y a un précédent très inquiétant, c'est Bhopal. Vous savez, c'est une grande catastrophe du XXe siècle qui a lieu en Inde en 1985. Une usine avec un insecticide qui dégage un gaz en pleine nuit qui tue des milliers de personnes. Union Carbide a été racheté par Dow Chemicals, et aujourd'hui, depuis des années, Dow dit, moi ça ne me concerne pas, Union Carbide n'existe plus. Il y a d'autres histoires similaires avec une filiale de Syngenta. Donc la question, c'est qu'est-ce qui va se passer? Donc on nous a demandé aussi que la commission se prononce là-dessus. Nous n'avons pas eu de réponse à cette question.
François Vaguerette.
Chez Génération Future, on est aussi directement concernés par cette crainte, puisqu'on a porté plainte alors contre l'agence européenne, l'agence allemande, mais également contre Monsanto, pour mise en danger de la vie d'autrui et tromperie aggravée dans l'affaire de l'homologation du glyphosate, à cause justement de la mauvaise interprétation des données scientifiques disponibles. Et si jamais l'entreprise Monsanto était absorbée par Bayer, effectivement, les poursuites s'éteindraient d'elles-mêmes. Donc je crois qu'au-delà de ce cas précis, l'ensemble des centaines de cas qui sont en cours dans le monde entier méritent d'être poursuivis. Et donc c'est une des raisons pour lesquelles, selon nous, la Commission ne doit pas autoriser cette fusion, en plus des simples raisons concernant la libre concurrence.
Donc si vous voulez avoir une idée des poursuites contre Monsanto, je vous invite à regarder le site de Justice et Pesticides qui a été créé, donc une association créée par Corinne Lepage, n'est-ce pas, qui recense actuellement toutes les plaintes déposées dans le monde, non seulement dans le cas du glyphosate, mais aussi à cause de l'exposition aux pesticides. Donc ça, c'est une vraie, vraie question, et personne ne l'aborde, on n'a pas de réponse, et je pense que c'est la raison majeure de cette fusion-là, parce que vraiment, il y a beaucoup de procès actuellement.
C'est pour se protéger, évidemment. Alain nous dit ceci, je suis agriculteur sur une très petite exploitation sur laquelle je pratique l'agriculture de conservation des sols. J'utilise très peu de glyphosate, mais quand je l'utilise, c'est que je n'ai pas le choix. Êtes-vous conscient que vous stigmatisez toute une profession sans aucune nuance? Alors François Vaguerette, qu'est-ce que vous répondez à Alain?
Premièrement, l'objet du débat, c'est pas stigmatiser les agriculteurs. Je rappelle d'ailleurs que le
règlement... Mais lui se sent stigmatisé.
Non, mais ça lui appartient, je le respecte. Mais le règlement européen, il faut revenir au texte dans ces affaires d'autorisation déjà. Le règlement européen, il est d'abord là pour protéger la santé publique. Et il dit, on ne peut pas mettre sur le marché un produit qui a telle ou telle caractéristique. Donc soit on applique les règlements qui sont adoptés, soit on ne les applique pas. Moi, j'ai tout tendance à penser qu'il faut les appliquer pour protéger la santé publique. Et donc, le glyphosate, pour moi, tombe dans les critères d'exclusion. Et donc, le produit ne doit pas être autorisé. Après, effectivement, si ça a un impact, des impacts sur la profession agricole, il faut aider les agriculteurs. Alors, ça peut être aider à se former à d'autres techniques, ça peut être aider à acquérir du matériel pour désherber mécaniquement, etc. Donc, il y a plein de manières, y compris en agriculture de conservation, où il y a des gens qui font des techniques de sans labour, sans utiliser le glyphosate. Donc il y a des techniques qui permettent de le faire. Voilà, parce que aujourd'hui, faut être clair, aujourd'hui la FNSE a déployé un axe de communication qui est le suivant. Les techniques du sans labour, qui représentent d'ailleurs moins de 1% de la surface agricole en France, l'agroécologie sont absolument liées à l'utilisation obligatoire, du glyphosate. Donc si vous êtes contre le glyphosate, vous êtes un ennemi de l'agriculture durable. Ce qui est complètement fallacieux, cet argument. Il y a moyen de faire de l'agriculture la plus propre possible sans glyphosate, et en étant efficace. On sait le faire. Donc aujourd'hui, c'est quand même assez risible de voir la FNSEA qui se présente comme le héros de l'écologie, alors qu'ils ont tout fait, ils continuent à faire. Un encouragement des systèmes agricoles qui utilisent beaucoup de pesticides. Ouais. C'est pas un hasard, ça a augmenté de plus de 15%
l'usage des pesticides. Ils s'opposent clairement à l'interdiction du glyphosate, la FNSEA.
Ah oui, très clairement, mais ils envoient toujours sur le front, si j'ose dire, ce dont même parler François, c'est 1%, qui font donc de l'agriculture de conservation, c'est-à-dire pas de labour, on passe un coup de Roundup. Ou pas, mais en général, c'est quand même, on en utilise. Ouais. Et avec un couvert végétal permanent. Et donc, c'est un peu ces pratiques qui sont plus vertueuses. Mais derrière, il y a 99%. C'est pas comme ça qu'on l'utilise. Hein. C'est dans les grandes plaines de la Beauce. C'est partout où on fait sur des énormes fermes. Parce qu'il sert à qui le glyphosate? Il sert à des grands propriétaires qui ont des grandes fermes. Et c'est pas eux qui parlent aujourd'hui. Hein. Ce sont plutôt ceux qu'on présente. Ce sont des gens qui ont des pratiques, qui utilisent peu de glyphosate. Mais c'est pas la réalité de
ce qui se passe en France.
Qui mettent en avant.
Ouais, Agnès dit. Mais qui sont ces gens qui empoisonnent les animaux, la planète, leurs congénères s'empoisonnent-ils eux-mêmes? Ils ne vivent pas sur une autre planète, mais bien la même que nous. Marre d'entendre seulement citer Monsanto. Ce sont des êtres humains en tant que tels, moins impressionnants à combattre des noms, dit Agnès. Comment on s'attaque justement à des nébuleuses comme Monsanto, Marie-Monique Robin? Parce que c'est vrai qu'il y a des gens clairement identifiables quand même derrière ces entreprises.
Oui, il y a aussi toute une série d'hommes de paille que je décris un peu dans mon livre, mais j'avais déjà fait avant dans d'autres livres antérieurs. Hein. Donc, des pseudos sur pseudo, parce que ça peut être des scientifiques qui sont dans les universités et qui sont des hommes de paille de Monsanto, ça peut être des lobbyistes. Moi, j'ai porté plainte contre un lobbyiste qui s'appelle Wakes Sepi, je le dis publiquement, il a un blog. Derrière ce pseudo, c'est André Heitz, qui est un lobbyiste. Et j'ai porté plainte parce que j'ai retrouvé l'un de mes mails privés adressé à un scientifique américain aux États-Unis, traduit en français sur son site, donc j'aimerais qu'il m'explique comment il l'a récupéré. Voilà, entre-temps, je suis allé voir comment verrouiller mon ordinateur. Enfin, vous voyez, donc, ils ont toute une série de techniques. Mais ce qui est fou, c'est qu'on les connaît maintenant. Parce que moi, il y a 10 ans, quand j'ai fait le monde sur Monsanto, tout le monde tombait un peu de haut. Enfin voilà, mais non, maintenant, tout converge, les Monsanto Papers et tout. On sait comment ils font. On sait comment ils manipulent les agences qui se laissent aussi manipuler. Hein, parce qu'il y a beaucoup de...
Il y a une
collusion, il faut quand même le dire. Hein, les pratiques de ces agences de réglementation, c'est quand même de... Au final, ça sert les intérêts des industriels et pas ceux des citoyens. Mais on sait tout ça. Et vous entendez un Phil Hogan, commissaire européen de l'agriculture, qui dit que le glyphosate, c'est pas très grave, c'est comme le beurre. Si on mange trop de beurre, on tombe malade. Et moi, je dis ça, c'est une insulte aux victimes, et c'est absolument lamentable. Voilà.
François Veillerette, pour terminer.
Oui, et puis il y a une tentative de désinformation généralisée. Alors, notamment, le CIRC, le Centre international de recherche sur le cancer, est aujourd'hui l'objet d'attaques qui sont gravissimes au niveau planétaire pour essayer de les décrédibiliser complètement, alors que ce sont les scientifiques les plus compétents sur le domaine au niveau planétaire. Et ça, c'est gravissime. On essaie de les faire passer pour des oiseaux, des amateurs ou des militants, alors que ce sont des scientifiques qui ont travaillé en toute indépendance, étudiant plus de 1000 études. Donc ça, il faut le dire et réagir, parce que ce CIRC est basé en plus en France. Et on a, là, je veux dire, un bijou scientifique à défendre pour l'intérêt commun.
Est-ce que ceux qui souhaitent mettre la pression sur Bruxelles mercredi, peuvent le faire?
Ils peuvent le faire, peuvent aller faire un tour sur le site de Génération Future, par exemple, et reprendre un certain nombre de tweets dans lesquels on interpelle les eurodéputés en leur conseillant de prendre la bonne décision, et les représentants des pays en leur conseillant de prendre la bonne décision pour bannir le glyphosate.
La pétition... européenne, c'est fini, maintenant elle est fermée.
L'initiative citoyenne européenne est terminée, elle a été conclue avec plus d'un million, 70 000 signatures, ce qui en fait la quatrième initiative citoyenne européenne à aboutir, et en tout cas la plus rapide, puisqu'elle aboutit en quelques mois seulement.
Marie-Monique Robin, vous allez poursuivre maintenant votre travail sur les lanceurs d'avenir, ça y est, après cette petite incartade qui vous a occupé quand même pas mal.
Je vais continuer, bien sûr, parce que c'est important, il faut montrer les alternatives.
Ouais. Il y a les lanceurs d'alerte, ça vous a fait le boulot déjà, et maintenant ceux qui vous intéressent, ce sont les lanceurs d'avenir, ceux qui proposent aussi des choses concrètes.
Ben oui, il y a des alternatives à toutes ces impasses dans lesquelles on a l'impression qu'on est, parce que c'est vrai que parfois c'est un peu déprimant de se dire il n'y a pas de solution. Il y a des solutions, y compris en agriculture. Ouais. Moi j'avais fait un film qui s'appelait Les Moissons du Futur qui montrait ça, des agriculteurs qui se passent des produits chimiques et ça marche.
Merci beaucoup à tous les deux. On pourra voir donc ce documentaire, le Roundup face à ses juges, sur le site d'Arte pendant 60 jours, et puis lire ce livre qui vient de paraître. Dans le même temps, c'est votre enquête, Marie-Monique Robin, parue aux éditions de La Découverte. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à Sacha Trop et Raphaël Rousseau qui étaient à la technique.